Bienvenue sur le podcast Portrait de génie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Portrait de génie. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis quelques mois. Je vous souhaite une belle et merveilleuse année 2024 qui s'ouvre avec un portrait d'un écrivain de science-fiction américain. Il s'agit de Philip K. Dick. Philip Kindred Dick, donc qui est un auteur américain de romans, de nouvelles et d'essais de science-fiction. Il est né le 16 décembre 1928 à Chicago et il est décédé le 2 mars 1982 à Santa Ana, en Californie. Il a marqué l'histoire de la littérature américaine grâce à des œuvres qui ont été adaptées au cinéma et qui ont de ce fait inspiré des films cultes comme Blade Runner, Total Recall, Minority Report, Planète Hurlante. Cependant, malgré plusieurs prix littéraires, il a été finalement assez peu reconnu de son vivant. Il aura vécu quasiment la majorité de sa carrière dans une quasi-pauvreté. Il est décédé quelques jours avant la sortie du film Blade Runner et il commençait juste à en recevoir les droits d'auteur. Philip K. Dick a une sœur jumelle, Jane Charlotte. Les deux enfants naissent en décembre 1928. Leurs parents travaillent tous les deux au département de l'agriculture des États-Unis. Sa mère manquait d'argent et également de lait pour recevoir notamment une aide médicale qui lui aurait conseillé de complémenter le régime des nourrissons avec des biberons. La petite Jane meurt quelques semaines plus tard de sous-alimentation. Donc le décès de ce jumeau fantôme affectera Philippe jusqu'à la fin de ses jours. Il reprochera toute sa vie leur misère à ses parents, qu'il considérera comme de la négligence. Ses parents divorcent lorsqu'il a 4 ans, c'est sa mère qui obtient la garde et son père rompt définitivement toute relation avec la famille. Sa première passion, c'est surtout la musique. À 12 ans, il sait reconnaître un très grand nombre d'opéras, de nombreuses symphonies ou concertos, rien qu'en entendant les premières notes. Il se passionne également pour les romans d'Edgar Allan Poe et de Lovecraft. À l'université, il étudie la philosophie. En revanche, à l'époque, c'était vraiment le macartisme qui était la force politique prédominante dans les universités, et il est alors renvoyé pour sympathie communiste. Ça donne ensuite à sa passion principale, qui est la musique. Il travaille donc comme programmateur pour une station de radio, et également comme vendeur de disques dans un magasin à Berkeley. À l'adolescence, il avait déjà commencé à écrire ses premiers textes de SF et également de la poésie. Alors certains étaient publiés dans le Berkeley Gazette. C'est en 1952 qu'il se lance dans une carrière d'écrivain professionnel. Ses débuts sont difficiles, il est ignoré par un grand nombre d'acteurs du monde de l'édition américaine. Il sort son premier roman en 1955, « Loterie solaire ». Côté cœur, il se marie en mai 1948 à Jeannette Marlin, dont il divorce 6 mois plus tard. Il se remarie en juin 1950 avec Cléo Apostolides, qui est d'origine grecque et qui est une militante de gauche, qui est mineure, qui est fichée au FBI pour communisme. Après ce premier roman, les relations avec sa femme se dégradent, il écrit la nuit, il ne supporte plus sa femme, il ne supporte plus de voir sa femme plus active que lui, le regard des voisins, donc il se sent un peu traqué, épié, surveillé. Il prend également beaucoup de médicaments, notamment des amphétamines, qui le plongent d'ailleurs souvent dans des dépressions assez atroces. Il ne rencontre pas le succès avec ses publications, puisque la science-fiction n'est plus vraiment à la mode. À l'époque, il y avait beaucoup le phénomène des pulps qui avait marqué l'esprit des Américains, mais cette mode est définitivement passée. Il divorce de sa femme en 1958 et rencontre Anne Williams Rubinstein, dont le mari vient de mourir. Anne a 3 filles qui se lient très rapidement avec Philip K. Dick. Il épousera Anne le 1er avril 1959 et il aura une fille, Laura Archer, qui naîtra de cette union le 25 février 1960. Sa femme l'encourage à écrire une œuvre pour qu'il ait enfin cette reconnaissance attendue. Malheureusement, le couple tourne mal encore une nouvelle fois. Philip K. Dick ne veut pas laisser de côté la science-fiction. Il veut aller au bout de ce qu'il a à dire. Il déclara d'ailleurs plus tard à propos de sa femme, c'était une psychotique meurtrière, elle me faisait peur et par deux fois elle a tenté de me tuer. Le couple divorça en 1964 et l'écrivain sombra dans la dépression. Entre-temps, il a publié Le Maître du Haut Château en 1962 et ça a été un immense succès. Il enchaîne ensuite les romans comme Les Clans de la Lune Alphan, Nous les Martiens, Simulacre et Le Dieu venu du Centaure. Pour sa production littéraire, il consomme énormément d'amphétamines. En 1964, il se remarie avec Nancy Hackett, qui est âgée alors de 21 ans, et qui lui donne un second enfant, Isolde Freya. Mais malheureusement, ce mariage ne fonctionne encore une fois pas. Philippe K. Dick accuse sa femme de vouloir faire comme les autres et de chercher à l'intégrer dans ce qu'il appelle la bonne société californienne. Politiquement, les assassinats de Robert Kennedy et de Martin Luther King le révoltent, et d'ailleurs il cessera de voter cette année-là. Il se met à écrire « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques », roman qui servira de base au film Blade Runner, mais également et surtout Ubik, qui sera plus tard vu comme son chef-d'œuvre. En 1970, il est particulièrement éreinté et déprimé. C'est la période la plus sombre de sa vie. Sa femme Nancy le quitte et emmène Isa en septembre. Il se met alors à se droguer encore plus. Il ouvre sa maison à tous les hippies ou junkies de passage. Et c'est grâce à cette période qu'il écrira Substance Mort, un autre de ses chefs-d'œuvre. Il cherchera à plusieurs reprises à se faire interner en hôpital psychiatrique, mais sans succès. Les psychiatres le trouvent certes un peu paranoïaque, un peu schizophrène, mais il ne présente pas vraiment de symptômes physiques caractéristiques d'un drogué dur. Il est bien en chair et en forme physiquement. Ces années 70 sont vraiment chaotiques pour l'écrivain. Il y aura une tentative de suicide, il y aura également un cambriolage où une grande partie de sa documentation personnelle sera volée, ce qui fera remonter à la surface sa paranoïa et si c'était le FBI. Mais il y aura aussi des périodes plus fructueuses, comme en 1977, lorsqu'il est l'invité d'honneur du deuxième festival international de science-fiction de Metz, ce qui lui permettra par lui-même de jauger de la popularité dont il jouit en France et en Europe. Il écrira d'ailleurs plus tard, à propos de son séjour en France, avoir passé la plus belle semaine de sa vie. Il meurt d'un accident vasculaire cérébral en 1982, quelques jours avant la sortie du film Blade Runner. Il est enterré à Fort Morgan, dans le Colorado, aux côtés de sa sœur Jane. Il aura publié 45 romans et il a écrit à peu près 121 nouvelles. Il est aujourd'hui considéré comme un des plus grands écrivains du XXe siècle dans la littérature américaine et également comme un des plus grands écrivains de science-fiction de tous les temps. S'il y a un livre que je vous recommande, c'est son chef-d'œuvre Ubik. Je vais terminer, comme à mon habitude, par deux citations de l'auteur. « La mauvaise science-fiction passe son temps à prédire. La bonne science-fiction donne l'impression de prédire. » La réalité, c'est ce qui continue d'exister lorsqu'on cesse d'y croire. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes, en tout cas sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée.